Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission. Le Forum de la Multipolarité et le Congrès du Mouvement International des Russophiles se sont tenus à Moscou. Deux panafricanistes qui ont participé à ces événements nous livreront leurs impressions et leurs analyses. La CDAO a annoncé qu'elle levait les sanctions contre la Guinée et le Niger, ainsi que certaines restrictions contre le Mali. Le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso réagira à cette annonce. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le Forum de la Multipolarité a ouvert ses portes à Moscou. Des délégations sont venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d'Europe pour participer à cet événement. Sa tenue vise à fournir des modèles de développement économique, technologique et culturel post-hégémonique occidental. Au micro de Spoutnik Afrique, Kémi Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, nous a partagé ses impressions sur le forum. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pouvez-vous nous partager vos impressions de cet événement ?
C'est un événement important, symboliquement, géopolitiquement, idéologiquement. Le sommet des BRICS, c'est une forme plus institutionnelle au sujet de ce qui concerne la multipolarité. Mais c'est dans une dynamique peut-être beaucoup plus politique, commerciale. Or là, nous sommes véritablement dans une dynamique qui est beaucoup plus idéologique. C'est-à-dire que des gens convergent pour un projet commun, pour un objectif commun. C'est l'addition de différents blocs qui chacun agissent dans le cadre de leur stricte souveraineté qui permettra de réussir à résister contre l'arrogance de l'unipolarité. Donc pour nous, c'est très important d'être présent ici. C'est très important pour nous d'être dans une dynamique, de nous coordonner avec les différentes forces en présence et d'avancer dans un cadre d'élévation, d'autodétermination collective de nos populations.
En parlant de multipolarité, Vladimir Poutine a déclaré que le système financier actuel était conçu pour servir le milliard d'or. Quels changements sont nécessaires pour que ce système garantisse le développement de tous et pas seulement des pays occidentaux ?
Il faut de toute façon, comme Kadhafi l'avait préconisé, qu'il y ait un changement structurel strict de la conception du monde monétaire et du monde économique. On a réussi à tous se faire embarquer par une élite apatride qui a fait sa fortune en créant le système bancaire, en créant le système financier, alors qu'elle n'avait rien à la base. Elle s'est posée en intermédiaire entre les différents types de populations dans le monde. Or, chaque peuple marche sur des ressources, possède des ressources, et ces ressources-là peuvent servir, dans un cadre de ce que l'on appelle de manière traditionnelle le troc, peuvent servir de monnaie d'échange avec d'autres populations sans passer par le système bancaire. Kadhafi, lorsqu'il voulait faire le dinar or, il était dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup plus s'appuyer, se renseigner, s'informer.
Selon le ministre russe des Affaires étrangères, la formation d'un nouveau monde multipolaire se heurte à la résistance de l'Occident. Pourquoi les pays occidentaux s'opposent-ils à cela ?
Mais parce que l'Occident, personne ne va scier un banc sur lequel il est assis. C'est tout à fait normal. Dans cette démarche-là que les choses se déroulent.
Et selon vous, quel est le rôle du Sud global dans l'architecture mondiale multipolaire ?
Le rôle du Sud global, tout simplement, est un rôle central. C'est le centre de gravité du monde géopolitique au XXIe siècle. Le Sud global, c'est les trois quarts de l'humanité. Et si ces trois quarts de l'humanité décident de s'organiser, personne ne pourra évidemment résister.
C'était Kémi Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste pour Spoutnik Afrique. Il nous a partagé ses impressions sur le Forum de la Multipolarité qui s'est tenu à Moscou. Autre événement d'importance qui a accueilli des invités, le Congrès du Mouvement International des Russophiles. Le président russe Vladimir Poutine a remercié ce mouvement pour sa contribution dans la lutte contre les tentatives de l'Occident collectif à isoler la Russie sur le plan international. Selon le chef du Kremlin, ils aident la Russie à diffuser des informations fiables et objectives sur notre pays à l'étranger. Pour revenir plus en détail sur ces deux événements, je reçois dans les studios de Radio Spoutnik Afrique Nathalie Yambe, militante panafricaniste suisse-camerounaise. Nathalie Yambe, on l'a appris il y a quelques heures, Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité d'envoyer des soldats français en Ukraine. Quelle est votre réaction à cette déclaration du chef de l'Élysée ?
Ben, je constate que Emmanuel Macron est un va-t-en-guerre total. Il est dans une attitude extrêmement dangereuse. Il met en danger les populations françaises qui, tout autant que je le crois, n'ont pas été consultées par rapport à ce genre de décision ou d'annonce de décision. Au moment où le conflit en Ukraine est plutôt en train de tirer vers sa fin, ça montre que Emmanuel Macron est totalement en roue libre. Mais il faut qu'il sache que cette fois-ci, ils auront plus des Africains à envoyer en première ligne. Après, ce que ça m'inspire aussi, c'est que ça fait quand même pas mal de temps que la France a envoyé des troupes en Ukraine. Mais c'était des mercenaires, c'est des soldats qui portent l'uniforme ukrainien, qui encadrent. Mais là, l'annonce qu'il fait, c'est des soldats réguliers. Bon, peut-être qu'il cherche un point de chute pour les soldats qu'on a chassés d'Afrique, mais je peux lui dire que ce ne sera pas une partie de plaisir et je trouve ça extrêmement dangereux parce que il met en danger des populations françaises qui n'ont rien demandé, qui sont en guerre avec personne et qui se battent elles-mêmes pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Et je trouve que la France, en réélisant Macron, a mis le monde un peu plus en danger. Même si du côté de l'Afrique, sa réélection a permis d'accélérer un mouvement d'émancipation, mais en ce qui concerne la paix dans le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très rassurant. Il semble être le plus excité de toute la volière européenne.
Oui, on l'a vu, il y a la Pologne notamment qui a exclu cette possibilité. Alors après, chacun aura sa lecture de cette déclaration. Jens Stoltenberg également qui a exclu cette éventualité d'envoi des troupes. Mais ce qui est également intéressant, c'est la réaction du Kremlin par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin. Selon lui, si la France envoyait ses propres militaires au front en Ukraine, eh bien, cela entraînerait une inévitabilité du conflit direct entre la Russie et l'OTAN, alors que quand même, ces derniers jours, et plus particulièrement depuis la prise d'Avdeïevka par l'armée russe, on remarque que les militaires russes avancent encore plus vite sur le front. Il y a des localités qui ont encore été libérées hier. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il y a d'autres localités autour d'Avdeïevka qui sont également en train d'être prises par les Russes. Et donc, moi, la question que je voudrais vous poser, pourquoi l'Occident refuse d'admettre sa défaite ?
Oh, je pense qu'il y a une dissociation à faire. Déjà, entre l'Europe et les États-Unis, la décision ne revient pas aux Européens. La décision revient aux Américains. Les Européens sont les esclaves des Américains. Donc, la question serait peut-être pourquoi les États-Unis ne donnent pas le feu vert pour des négociations de paix ou pour un cessez-le-feu. Et là, il y a plusieurs équations. On est dans une année électorale aux États-Unis. Ils ont besoin de faire passer des budgets, sachant que si Donald Trump gagne l'élection, s'il n'arrive pas à l'éliminer de la course à la Maison-Blanche, il a déjà annoncé, il ne s'en cache pas, qu'il mettra fin à tout ça. Donc, ils sont dans une période où il faut pousser au maximum pour que certains bills, comme ils disent, passent au Congrès, passent au Sénat, etc. Ici, en Europe, je pense que là aussi, il y a une scission. L'attitude, vous le disiez tout à l'heure, l'attitude française tranche quand même avec certaines réactions autour. On voit que l'Allemagne a plutôt tendance à freiner aussi. On voit que tous sont un peu plus prudents. Et on a Macron qui est dans une attitude de coq. Bon, ça tombe bien, le coq français. Et vous savez, quand on tranche la tête d'un poulet, il a souvent l'habitude de continuer à faire encore 2-3 tours. Il est déjà mort, mais il continue de marcher, de gicler du sang comme ça. Je pense que c'est Emmanuel Macron qui fait ce tour de cette parade du condamné qui a déjà la tête tranchée, qui sait qu'il a perdu la bataille, mais qui veut Macron.
Une forme de chant du cygne, en fait.
Absolument. Macron n'existe qu'à l'international. En France, il se fait malmener par ces populations que lui-même maltraite. Il y a des manifestations, il y a des gens qui l'apostrophent partout en ville. Il est rejeté. D'ailleurs, on ne sait même pas qui l'a élu, in fine. On est avant les élections européennes. Il a besoin d'exister à l'international, de pousser ses candidats. Mais sur le terrain, bon, on sait tous que l'histoire-là est terminée.
Alors, vous êtes en Russie et vous avez assisté au forum de la multipolarité qui vient de se tenir à Moscou. Et quelles sont vos impressions ?
Écoutez, j'ai constaté plusieurs choses. D'abord, qu'il y avait une grosse affluence. Je crois qu'on nous a annoncé qu'il y avait 130 délégations qui étaient là. Donc, c'est une grosse affluence. Et puis, vous savez, souvent, pendant très très longtemps, la question de la multipolarité était une question qui était soulevée par les Africains. Parce qu'il y a eu d'abord l'unipolarité et puis la bipolarité du monde. Et aujourd'hui, on constate que dans les salles de ces forums-là, il y a des Africains, mais il y a aussi beaucoup d'Occidentaux, il y a des Asiatiques, c'est vraiment très mélangé, et on se rend compte que les choses ont shifté au niveau mondial, qu'il n'y a plus une barrière, une division du monde idéologique Est-Ouest, mais qu'on est plutôt dans des répartitions Nord-Sud globales, comme on le dit aujourd'hui, sur des thèmes qui sont repris partout, autour des valeurs traditionnelles, autour de la souveraineté, autour du respect, autour des choses dont on ne parlait pas, dont nous étions au préalable. C'était surtout l'Afrique qui réclamait ça, parce qu'on a toujours été la victime de l'unipolarité ou de la bipolarité. Et la multipolarité, aujourd'hui, le challenge, la raison pour laquelle je participe à ce genre de forum, c'est pour nous assurer que l'Afrique, cette fois-ci, alors qu'est en train de s'écrire un nouvel ordre mondial, que l'Afrique, cette fois-ci, ne soit pas seulement dans la salle, absente de la salle, ou dans la salle en tant que menu, ou en tant que serviteur, mais assise à la table de décision pour prendre toute la place qui devrait être la sienne.
Pendant cet événement, on a le philosophe russe Alexandre Douguin, qui a tenu un discours devant les participants. Il a déclaré que la multipolarité n'était pas contre l'Occident, mais contre la présomption d'universalité et d'exception de l'Occident. Pourquoi les dirigeants de ces pays occidentaux refusent de comprendre cela ?
Ils ont toujours réussi à imposer leur façon de voir. Toujours. Et aujourd'hui, ils sont face à l'inconnu. Ils étaient dans un château où tout se faisait selon leur desiderata. Ils sont bien conscients que c'est la fin d'un monde, mais ils essayent de freiner des quatre fers pour essayer d'éviter l'inévitable. Ils perdent du temps parce que, effectivement, la multipolarité pour laquelle nous nous battons, que nous essayons de mettre en place, n'a pas pour but d'écraser quelqu'un. Ça a pour but de laisser sa place à tout le monde. Et d'éviter justement qu'il y en ait quelques-uns qui écrasent les autres. On ne veut pas partir d'un monde unipolaire occidental vers un monde unipolaire asiatique, par exemple. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ils ont toute leur place à l'intérieur de ces négociations, de ces réflexions sur l'élaboration d'une nouvelle architecture. Mais ils ne se voient pas dans une position d'égal à égal avec les autres. Ils se voient encore toujours dans une position dominante. Et je pense que là, c'est un appel qu'il faut lancer aux populations occidentales de mieux choisir leurs dirigeants, de choisir des dirigeants qui n'ont pas cette attitude méprisante, cette attitude dominatrice, impérialiste, cette vision du monde impérialiste, et de mettre en place, d'élire des dirigeants qui sont ouverts, qui comprennent que le temps où ils étaient les maîtres du monde est terminé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles puissances qui montent. Ces nouvelles puissances, contrairement à elles, n'ont pas décidé d'utiliser leur position pour écraser les autres, mais elles essayent d'ouvrir et de traiter tout le monde avec respect. On peut aussi traiter les Européens avec respect. Ils n'ont pas à avoir peur. Et je veux aussi leur dire, ils nous ont traités sans respect et avec mépris depuis des centaines d'années, on n'en meurt pas. Il faut qu'ils sachent qu'on n'en meurt pas. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de ce mouvement multipolaire. Ce n'est pas d'écraser l'Occident. C'est de dire, vous avez eu votre temps, ce temps est dorénavant terminé, vous êtes une minorité, on veut une autre façon d'interagir entre États, entre peuples. On ne veut pas être sujet à des sanctions pour un oui, pour un non. Vous allez mettre en péril des populations, des millions de populations à travers le monde parce que vous, vous avez un petit agenda égoïste personnel. Ce temps-là est terminé. Soit vous entrez dans le train aujourd'hui, bon, soit vous serez hors de ce mouvement et de ce nouvel ordre mondial qui est déjà en train de se mettre en place.
Alors, M. Douguine a également parlé du continent africain. Selon lui, l'Afrique n'est plus une colonie occidentale, mais un géant émergent. Comment se manifeste, selon vous, cette émergence du continent africain sur la scène internationale ?
Bien, on voit déjà que l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises géopolitiques. La guerre ou le conflit qui se déroule en Ukraine se déroule aussi et transposé sur le continent africain. On voit les appétits que l'Afrique aiguise. Chacun vient avec ses motivations et ses intérêts particuliers, mais la vocation de l'Afrique n'est pas d'être le terrain de jeu ou le terrain de guerre des autres. La vocation de l'Afrique, c'est de vraiment commencer à rendre justice à ses populations en leur permettant de sortir de la misère et de la pauvreté et d'en faire des populations qui soient dignes, qui soient respectées, qui soient à l'aise, qui soient prospères. Personne ne doute que l'Afrique est le continent du futur. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel est la meilleure preuve de l'émergence africaine, où des gouvernements aujourd'hui décident en toute souveraineté de faire ce qui est bon pour eux d'abord, quelles que soient les sanctions qu'on veuille leur imposer. Et d'avoir des populations qui sont comme un seul homme derrière ces gouvernements pour dire, on sait que c'est un moment difficile à traverser. On sait que dans le monde, on a toujours l'impression que l'Afrique, si elle n'est pas dominée par un, il faut qu'elle soit dominée par d'autres. Aujourd'hui, je pense que tout le monde constate que l'Afrique a décidé de n'être dominée par personne et de décider ce qui est bon pour elle. Les plus intelligents viennent auprès de ces nouveaux dirigeants et de ces nouvelles autorités pour discuter d'égal à égal de possibilités de partenariat. Les plus obtus essayent de continuer d'intriguer, de provoquer, de financer des rébellions, des déstabilisations, mais c'est voué à l'échec.
Et concernant l'Afrique, récemment, on a Jean-Marie Bockel, qui est donc le nouvel envoyé spécial présidentiel sur le continent africain, qui a annoncé au Monde, le 13 février dernier, la fin de la France-Afrique. Quelle est votre évaluation de cette nouvelle stratégie française en Afrique ?
Moi, ça fait tellement d'années que la France nous annonce la fin de la France-Afrique que je crois que c'est... La France-Afrique a plus de résurrection que n'importe quel autre saint ou quelle autre divinité sur cette terre. La fin de la France-Afrique, ça s'annonce pas. Ça se traduit par des actes concrets. La France-Afrique, c'est les changements de régime, c'est les coups d'État, c'est les déstabilisations, c'est le franc CFA, c'est les bases militaires françaises, c'est les accords léonins, c'est une attitude dominatrice et irrespectueuse envers les chefs d'État et envers les peuples. C'est l'utilisation du visa ou de la nationalité pour faire du chantage. C'est du chantage financier. C'est de l'aide publique au développement conditionnée. C'est de la corruption entretenue. C'est ça la France-Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire si la France-Afrique est terminée. Nous-mêmes, nous allons travailler et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette France-Afrique. Ce n'est pas la France qui va mettre fin à la France-Afrique, parce qu'elle n'a aucun intérêt à mettre fin à un système qui entretient son oligarchie là-bas. La seule fin de la France-Afrique qui vaudra, c'est celle que nous sommes en train de mettre en place avec les gouvernements au Niger, au Mali, au Burkina et ailleurs qui incitent les autres, qui donnent du courage à d'autres chefs d'État, à d'autres populations, en déconstruisant toute cette architecture, tout ce système qui a été mis en place. Et nous le faisons systématiquement. Et un matin, c'est nous qui allons dire « La France-Afrique est morte ». C'est pas eux. Jean-Marie Bockel peut venir, Macron l'a déjà répété je sais pas combien de fois, avant lui c'était Hollande, avant lui c'était Sarkozy, c'est une litanie qui est rigolote. C'est comme quand il nous a annoncé en 2019, peu après m'avoir fait expulser de Côte d'Ivoire, il avait annoncé la fin du franc CFA. Et je me souviens qu'on m'avait posé la question, il y a des gens du ministère des Affaires étrangères français qui étaient venus me voir à l'époque, pour dire « Oh mais vous savez Madame Yambe, le président Macron va faire une annonce qui va vous plaire tout à l'heure ». Je ne savais pas ce qu'il allait dire et je sais que j'ai répondu à ces deux ambassadeurs du Quai d'Orsay. Je leur ai dit, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient me voir, je leur ai dit « Moi je viens pas vous voir, vous êtes qui ?» pour que je vienne vous voir. Mais bon, c'est eux qui se sont déplacés. Et je leur ai répondu, vous savez, ce qui peut me faire plaisir ne sortira jamais de la bouche d'un président français. Ça sortira toujours d'une décision d'un président africain. Et c'est la même chose pour la fin de la France-Afrique. C'est ce que nos chefs de gouvernement sont en train de faire au Sahel, qui signifie la mort inéluctable de la France-Afrique. Et ce que la France est en train de faire, c'est d'essayer de freiner cet élan des quatre fers. Elle ne réussira pas.
On va passer maintenant à la CEDEAO qui a annoncé avoir levé les sanctions contre le Niger, la Guinée et partiellement contre le Mali. Et pour rappel, cette organisation, elle avait non seulement sanctionné le Niger après la prise de pouvoir par des militaires en juillet dernier, mais également fait peser la menace d'une intervention militaire dans ce pays. Et comment analysez-vous ce changement radical de posture de la CEDEAO ?
Oh, c'est pas un changement radical de posture de la CEDEAO, c'est le changement d'une instruction venue de Paris. La CEDEAO, c'est un conglomérat de laquais au service de la France. C'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été surpris par le fait que les trois pays décident de se retirer. Ils ont toujours pensé que, en faisant pression, que jamais ils pourraient sortir de là. Et je pense qu'aujourd'hui, la levée des sanctions, c'est pour tenter d'amadouer les pays.
C'est une sorte de carotte pour faire marcher.
Oui, mais ça marche pas. Je veux dire, les chefs d'État qui ont pris ces décisions, ils se sont pas levés un matin en se disant « Ah, oh, ben, j'ai mal dormi cette nuit, tiens, je vais me retirer de la CEDEAO ». C'est des réflexions, c'est des analyses, et c'est pas faute d'avoir mis en garde la CEDEAO et par extension la France. J'ai été une des personnes les plus vocales depuis plusieurs années en disant, en conseillant d'ailleurs à ces États de se retirer de la CEDEAO. Parce que vous savez, la CEDEAO est un des instruments les plus puissants que la France avait au niveau international. Vous êtes membre de la CEDEAO, donc la France peut décider de parler avec la CEDEAO pour vous sanctionner. Et la CEDEAO a donc cette légitimité de dire, bon, nous, à la CEDEAO, nous sanctionnons ces pays parce que vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre de la CEDEAO, vous savez, j'ai vu à la suite du sommet de samedi là qu'ils ont annoncé la levée de quelques sanctions parce que ils n'ont pas démobilisé la force en attente. Ils ont dit là, qui était prévue pour agresser le Niger.
Tout à fait.
Elle n'a pas été démobilisée. Elle doit rester activée. Elle doit même être cette fois-ci soi-disant pour combattre le terrorisme. Et le terrorisme, il est là depuis la chute, depuis la destruction de la Libye par l'OTAN. Mais on n'a jamais vu quelqu'un se battre contre le terrorisme. Le principal sponsor du terrorisme dans le Sahel, c'est la France. Donc, s'ils sont là pour combattre le terrorisme, ça veut dire qu'ils sont là pour combattre leur donneur d'ordre. En fait, ils n'ont pas abandonné l'idée de faire un coup en loup cédé contre le Niger. Si vous regardez bien, les Français sont maintenant présents au Mali, ils sont présents à la frontière tchado-nigérienne. Il y a même des militaires français qui sont présents au Nigeria. Donc, ça sert un peu à endormir les populations et les gens à dire, bon, écoutez, on a levé certaines sanctions, mais la belligérance et la volonté d'agression sont toujours là. Leur malchance, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui sont très aguerris, qui sont vigilants et qui n'ont pas l'intention de prêter flanc. Vous retirez de la CDAO, aujourd'hui c'est la CDAO qu'on entend pleurer, qu'on entend venir demander aux trois pays de rentrer, qu'on la voit essayer de mettre une scission peut-être en disant au Niger, bon vous voilà, on a levé toutes les sanctions, n'allez pas avec les deux autres qui sont là-bas, eux ils sont trop têtus, mais vous pouvez encore revenir. Il faut pas aussi oublier que les sanctions qu'elles ont imposées ont été aussi de superbes buts contre leur camp, comme l'Union européenne avec la Russie. Le Bénin, le port de Cotonou s'est complètement écroulé. Monsieur Talon est, je crois, un très grand propriétaire de camions, etc., qui faisait le transport. Donc, il n'y a plus de camions pour traverser, pour aller livrer au Niger. Donc, les gens ont ressenti eux-mêmes les effets de leurs propres sanctions. Je pense que la CDAO s'est singulièrement ridiculisée avec cette annonce. Elle montre qu'elle n'a aucune colonne vertébrale, aucune ligne directive, qu'elle suit les instructions d'où qu'elles viennent, même si elle doit être totalement ridicule. Elle sait, les gens de la CDAO savent que la sortie des trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES signifie in fine la fin de l'organisation. Une organisation qui a été conçue pour 15, s'il y a trois membres et non des moindres qui en sortent, qui représentent 70 millions de populations, qui représentent 2,7 millions de kilomètres carrés, c'est fini. Donc, c'est le chant du cygne, ça ne trompe personne. Les chefs d'État ne reviendront pas. La seule option qui leur reste maintenant, c'est de négocier des accords bilatéraux avec les pays de l'AES et de voir comment ça va se dérouler derrière.
Il y a également un autre problème pour la CDAO, c'est la situation au Sénégal. Et selon vous, comment la situation dans ce pays affectera l'avenir de la CDAO ?
Vous savez, le Sénégal est un enjeu, je dirais, de premier plan, pas pour la CDAO, mais pour la France, et pour lui et moi. Le Sénégal héberge le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si le Sénégal est dirigé par quelqu'un qui a décidé d'émanciper le pays du franc CFA, c'est une catastrophe finie. La France-Afrique a été conçue autour de certains pôles, de certains piliers. Le Sénégal, c'était le pôle idéologique de la France-Afrique, avec les Senghor et consorts. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était le pôle économique en Afrique de l'Ouest, le Gabon, le pôle économique en Afrique centrale, et le Tchad qui a été le pôle militaire. Le fait de ne plus avoir la main sur le Sénégal, c'est une catastrophe pour Paris et donc pour la CDAO, parce que la CDAO n'existe que comme instrument de Paris. C'est une catastrophe et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, vous les voyez, Macky Sall a décidé de ne pas organiser d'élections. Il a privé le peuple sénégalais qui est friand d'élections. Moi, je ne suis pas une adepte des élections à tour de bras, mais le peuple sénégalais attendait son élection. Il les a privés d'élections. Il a, depuis 2021, fait tuer plus d'une centaine de personnes, mis en prison arbitrairement, des milliers de personnes qu'on libère tout aussi arbitrairement après des mois et des mois de détention, sans jugement, sans rien, juste par la volonté du chef. Et au lieu de parler du Sénégal et de dire à Macky Sall que ce qu'il a fait, c'est pas bien, que ça viole les textes ou l'esprit communautaire. Non, non, on le félicite pour les belles infrastructures qu'il a mis. Tout ça achève de complètement ridiculiser la CEDEAO, de la présenter comme un élément qui travaille, une institution qui travaille contre les peuples, contre le bonheur des peuples et qui est au finish un syndicat de chefs d'État malfaiteurs.
Et quelles sont les perspectives futures du renforcement de l'influence africaine sur la scène internationale ?
Ben, je pense que, comme on l'a dit quand on parlait de la multipolarité, l'Afrique aujourd'hui s'impose comme étant un acteur majeur du monde qui est du nouvel ordre mondial qui est en train de s'écrire. On l'a vu avec l'entrée de nouveaux pays africains dans les BRICS. Avant, on n'avait que l'Afrique du Sud, qui était d'ailleurs entrée un peu en retard dans les BRICS originales. Aujourd'hui, on a sur la côte est de l'Afrique l'Éthiopie qui est entrée, on a l'Égypte qui est arrivée. Ça, c'est la côte est. On a au Sahel, donc cette puissance en train d'émerger qu'est l'Alliance des États du Sahel, qui est en train de prendre son indépendance, qui est en train de se développer au niveau militaire, qui est en train de travailler à la sortie du franc CFA pour prendre sa souveraineté monétaire, qui est en train de créer donc un nouvel espace avec de nouvelles conditions, où on dit, vous pouvez venir travailler chez nous, avec nous, mais il faut que les intérêts des populations de notre pays soit prise en compte. C'est ça qui nous motive quand nous négocions. Donc, il n'y aura pas de développement futur sans une nouvelle place pour l'Afrique. Il y a une nouvelle génération qui arrive dans certaines positions de décision. Il y a la majorité de la population qui exige de ses dirigeants dorénavant de ne plus nous maintenir dans la vieille Afrique de papa et qui exige aujourd'hui qu'on puisse avoir à la tête de nos États des gens qui prennent des décisions décomplexées en faveur des populations. C'est inéluctable. L'Afrique est vraiment, pour une fois, en train de prendre son envol. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les marronniers. Chaque année, dans la presse, on vous dit « Ah, l'Afrique s'envole, l'élan, l'envol de l'Afrique, le décollage de l'Afrique ». Là, on n'a pas besoin d'en parler beaucoup. On travaille sur le terrain et ça se fait.
Vous avez parlé des BRICS tout à l'heure. Deux pays ont donc rejoint officiellement l'Alliance le 1er janvier dernier. Oui. Quel pourrait être le rôle des BRICS dans l'émergence du continent africain ?
Ah, je pense que déjà le fait d'intégrer de nouveaux pays africains montre que les BRICS ont compris que l'Afrique a un rôle à jouer. Ça va être du ressort de nos dirigeants. Les BRICS sont ouverts à tout le monde. Mais les BRICS, c'est une vision du monde, une vision du développement, une vision de la collaboration qui sous-tend que quand vous venez dans les BRICS là, vous venez pas en tant que vassal de quelqu'un, vous venez en tant qu'État souverain. Que vous soyez grand, que vous soyez plus petit, je pense que ça se discute, mais c'est la souveraineté. Vous ne pouvez pas entrer dans les BRICS en étant le poisson pilote d'une main cachée quelque part.
On a vu, oui, par exemple, la candidature de la Grèce aux BRICS, qui est quand même membre de l'Union européenne, qui a eu un passif avec des organisations financières internationales, notamment pour la question de la dette, la fameuse crise de l'euro.
Bah oui, on a vu Emmanuel Macron voulant s'inviter au sommet des BRICS à Johannesburg.
Tout à fait.
On l'a vu faire ce qu'on appelle au Cameroun un « je m'invite, personne ne t'a sonné, toi tu te lèves, tu dis moi je veux venir, mais tu viens faire quoi ? Toi tu es un vassal des États-Unis, tu es vraiment un esclave des États-Unis. Les BRICS sont en train de mettre en place des systèmes monétaires qui ne vont plus être soumis au dollar, de travailler à une dédollarisation de l'économie. Et puis toi, tu veux faire le « je m'invite ». Enfin, j'ai adoré la réaction des Sud-Africains et de la ministre Naledi Pandor qui a dit que, bon, vraiment, elle n'est pas au courant, mais lui n'est pas invité, quoi. Non. Mais même les pays africains, les pays de la zone CFA doivent comprendre que les opportunités qui s'offrent avec les BRICS, ne s'offriront pas à eux tant qu'ils seront dans la zone euro, puisqu'ils sont dans la zone euro, factuellement. Donc, il faut une souveraineté monétaire pour pouvoir entrer dans les opportunités d'élargissement, de transactions financières, de commerce général, etc. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. C'est à nous, pays africains, de comprendre la philosophie qui sous-tend le regroupement des BRICS. Plus maintenant, puisque BRICS, c'était 5 pays, on ajoute un petit plus maintenant, puisqu'il y en a 5 autres qui sont entrés, des BRICS plus, et de les saisir. Quand vous regardez les BRICS, les membres des BRICS aujourd'hui, ils sont tous soit du côté asiatique, Inde, soit dans la côte est africaine. Et quand vous regardez l'Afrique, on a une carte de l'Afrique derrière, mais
oui,
quand vous regardez l'Afrique, c'est beaucoup plus long d'envoyer quelque chose de Johannesburg ou de Cape Town là-bas au nord, plutôt que d'envoyer quelque chose depuis Dakar jusqu'en Inde. La distance est beaucoup plus courte. Il y a des opportunités de développement d'infrastructures, comme elles se font aujourd'hui avec l'initiative Belt and Road, la nouvelle route de la zone.
Voilà.
Avec tous les travaux qui se font en Iran, en Inde, au Kazakhstan, partout, la construction de ponts, de routes, de chemins de fer, l'Afrique peut très bien profiter et se connecter à ça dans sa transversale là. Mais c'est à nos chefs d'État de faire le minimum nécessaire pour y entrer.
Je vais poursuivre avec les BRICS. On a le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, qui a récemment déclaré que les BRICS élaboraient une stratégie pour faire face aux risques que les dettes et les déficits budgétaires élevés des pays occidentaux font peser sur l'économie mondiale. Et quels sont, selon vous, les dangers d'un système financier centré sur l'Occident et quelles sont les alternatives, surtout ?
Bon, on a vu le système financier centré sur l'Occident, on en voit les répercussions. En termes d'outils de pression, ils peuvent du jour au lendemain vous bloquer. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez plus l'utiliser parce qu'on a mis des sanctions sur tel ou tel pays avec qui vous aviez des relations.
Oui, pour la Russie, par exemple, on a 300 milliards de dollars d'actifs qui sont gelés. Et pour les Russes ordinaires, évidemment, on a la déconnexion du système SWIFT, ce qui fait qu'un Russe, quand il se rend à l'étranger, ne peut pas utiliser sa carte bancaire.
Ou quand nous, on vient ici en Russie, on ne peut pas utiliser notre carte bancaire.
Voilà, il faut venir avec du cash.
Avec du cash, il faut changer, il faut... Donc, le système occidental nous a montré que c'était une arme. Ce n'est pas un système qui permet des échanges, c'est un outil de sanction, c'est une arme de guerre. Et donc, il est absolument important d'en sortir. Vous savez, on a parlé de la crise des céréales, des grains, grain crisis. L'Afrique était toujours mise en avant comme étant ceux qui ont besoin de blé, de machin, alors que, bon, franchement, on représentait peanuts dans les livraisons. Mais on était, par exemple, en Afrique, on avait besoin d'engrais, où il y a des pays qui avaient besoin d'engrais. On pourrait s'en passer, puisqu'on a le Maroc qui est là, qui a plein de phosphates, avec qui on pourrait travailler. Enfin, il faut aussi ça doit nous amener à travailler nos propres productions. Mais il y a des pays qui avaient besoin d'engrais, certains pays avaient besoin de céréales. Il y avait de l'argent dans les comptes de ces pays. Je parle de la zone du CFA. Hein. Il y avait de l'argent dans les comptes de ces pays. Ces pays voulaient payer leurs commandes. Mais comme le SWIFT a été striké, plus moyen de payer. Alors, vous n'êtes pas partie prenante du conflit. Vous êtes là, on est là sur notre continent. On n'a rien à voir avec les palabres que vous avez là-bas en Europe. Mais parce qu'on est dans le système financier, on est les victimes. De la même façon, la conditionnalité des prêts, ce qu'on nous présente comme de la générosité, dans 80%, c'est des prêts avec des taux de 9%, 8,5%, 6,75%, enfin.
Ou des conditions qui ne vont pas en osmose avec les valeurs du pays en question.
Regardez
la situation avec l'Ouganda.
Oui, mais tout le système occidental qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale a toujours été un système hyper violent et hyper dominateur. Il n'y a pas la notion de collaboration, de partenariat. C'est une notion de relation de maître à esclave. Tu obéis ou bien je te sanctionne. On ne dit pas que les autres sont des saints. quand les Chinois viennent, quand les Russes viennent, quand les Turcs viennent, etc. Chacun cherche son intérêt, c'est normal. Si nous, nous avons des problèmes, c'est parce que beaucoup de nos dirigeants sont plus intéressés à satisfaire les intérêts des autres plutôt qu'à à défendre nos propres intérêts. Donc, on ne va pas jeter toute la faute toujours sur les autres. Mais ce qui distingue l'Occident des autres, c'est que quand vous faites des affaires, si jamais vous, ça ne marche pas, les Turcs, les Russes, les Chinois, je sais pas, les Iraniens, ils vont pas aller fomenter des coups d'État pour renverser le système et installer quelqu'un à la place qui va venir leur signer les contrats. Alors que les Occidentaux, c'est ce qu'ils font. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, non seulement sur le plan bilatéral, ils vous serrent la vis, ils vous machin. Mais en plus, ils vont dans les organisations internationales, comme le FMI, la Banque mondiale et tous ces trucs. Et derrière le rideau, ils vont dire à leurs copains occidentaux que, bon, quand le Mali va venir pour prendre tel ou pour avoir tel projet financé, faut pas le financer parce qu'il m'énerve là-bas et lui, il veut pas me signer. Et puis, il y a la solidarité occidentale qui... C'est une nécessité de survie, de sortir de ce système-là. C'est une question de survie pour tout le monde. On ne peut plus entrer dans un système qui est utilisé comme une arme de guerre contre des gens qui sont membres de ce système. Donc, le système que les BRICS veulent proposer, on doit veiller à ce que ce ne devienne pas non plus un autre système dans ce genre. Je pense que tout est fait pour que ce ne soit pas le cas, mais c'est une nécessité première. Maintenant, quand vous dites que l'Occident, l'écroulement de l'Occident, ça va naturellement aussi avoir un impact pour les pays comme la Chine et les autres qui ont prêté de l'argent à l'Occident, qui ne seront plus en mesure de rembourser comme il faut. Mais je pense que toute lutte de libération et d'émancipation a un prix. Tout le monde devra le payer.
Aujourd'hui, Moscou accueillait également le deuxième congrès du mouvement international des russophiles, auquel vous avez également assisté. Et qu'est-ce qui attire les gens de différents pays et continents vers la Russie, vers sa politique et sa culture, selon vous?
Bon, écoutez, alors le sommet de la russophilie, là, était le deuxième, était prévu aujourd'hui. Moi, j'étais venue pour assister au forum sur la multipolarité, mais on nous a invités à assister à la cérémonie d'ouverture et ce que nous avons fait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont membres de ce congrès-là, je n'en suis pas membre, mais je peux comprendre que des gens qui sont membres de ce congrès se disent qu'on a besoin, qu'ils se retrouvent auprès de gens qui ont des valeurs communes, qui ont une vision du monde commune. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Et on voit qu'il y a... Moi, j'étais assez étonnée quand je regardais dans la salle. J'ai vu qu'il y avait quelques Africains. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient d'Asie, des gens qui viennent de Madagascar, de l'Érythrée, enfin, et puis de plus loin, de Bulgarie, de France même. Donc, on se dit, partout dans le monde, il y a des gens qui se disent, bon, vraiment... Il y a une vision du monde que nos dirigeants ou que des dirigeants ont qui ne nous plaisent pas. Et puis la Russie, c'est, dans certaines parties de ce combat, mise en avant en étant droite dans ses bottes, comme les Africains. D'ailleurs, en ce qui concerne les valeurs traditionnelles, vous avez cité l'Ouganda tout à l'heure. Bon, ils font toutes les pressions possibles sur Museveni. Ils disent « ça ne nous convient pas, vous pouvez nous sanctionner comme vous voulez, on n'acceptera pas ça ». Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une division du monde communiste versus capitaliste, on est version traditionnaliste versus progressisme, ce qui s'appelle wokisme, et puis ou bien souveraineté contre allégeance, domination. Et je pense que pour pas mal de personnes qui étaient présentes à ce congrès-là, la Russie doit symboliser un des pays qui est le plus en avant sur ça, un pays qui est fier de sa culture, qui a décidé de ne pas se laisser marcher dessus et qui a décidé de résister à des attaques de toutes sortes pour rester en accord avec soi-même. Et je pense que ce qui m'intéresserait, c'est qu'un jour, on puisse en Afrique organiser un congrès de l'afrophilie. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est l'amour de l'Afrique. On a des partenariats, on regarde, on a des symbioses, certaines fois, des points de rencontre avec des gens qui partagent une même vision de certains points. Mais c'est toujours bien de s'aimer soi-même d'abord et d'être fier de ce qu'on a. Ce que je retire de ce que j'ai pu voir lors de la cérémonie d'ouverture, c'est qu'on serait bien inspirés, nous, en Afrique aussi, d'être fiers de ce qu'on a. Peut-être d'abord de savoir même ce qu'on a, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne savent même pas ce qu'ils ont, de trouver ce qu'on a et d'être fiers et d'appeler les autres qui partagent cette même vision qu'on a à venir aussi nous rejoindre.
Je vais finir sur une dernière question. Sergueï Lavrov a évoqué aujourd'hui les flux de désinformation et de mensonges diffusés par les médias contrôlés par l'Occident collectif. Cela concerne à la fois la Russie et l'Afrique, dont les médias occidentaux tentent de donner une image déformée. Et les médias russes, pour rappel, tels que Sputnik et RT, sont tout simplement interdits. Comment pouvons-nous lutter contre ces manifestations de guerre hybride menées par l'Occident ?
Ah, c'est une guerre très très perverse et je suis victime de cette guerre, cette campagne de désinformation, cette campagne d'invisibilisation, de shadow banning, de censure, de diffamation, de contre-vérité. Les pays en sont des victimes, mais les individus comme moi, comme Kémy, comme d'autres combattants qui veulent travailler à l'émancipation de notre continent, on en est victimes. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Ils ont beaucoup d'avance sur nous, hein, malgré ce qu'ils disent. Et c'est eux qui présentent tous les jours ce que nous faisons comme de la désinformation, mais les opérations spéciales des services occidentaux en la matière remontent à tellement longtemps que vraiment, il faut rendre à César ce qui est à César. Ils sont les maîtres en la matière, mais il faut qu'on arrive à se défendre. Et pour se défendre, il faut éveiller les populations dans nos pays respectifs, ce que nous faisons, c'est-à-dire apprendre aux populations que ce qui sort des antennes de RFI, de TV5, de France 24, c'est de la propagande pour un État. Ce sont des chaînes qui sont affiliées à un État, On est en guerre, c'est une guerre informationnelle. D'ailleurs, je crois que le Forum économique de Davos, dernièrement, a listé la désinformation comme étant un des plus grands dangers de la planète pour les années à venir. Je me suis dit, tiens, ils ont rétrogradé le climat. Bon, d'accord. C'est l'éveil de nos populations. Le plus de nos populations vont comprendre comment fonctionne le monde, la réalité du monde, le plus ils seront eux-mêmes triés à l'intérieur de toute cette désinformation qui est jetée sur nous. C'est l'inversion accusatoire. Ils nous accusent de quelque chose que eux pratiquent à longueur de journée, à longueur d'année et à longueur de décennie. Ça marche de moins en moins. C'est pour ça qu'ils sont très fâchés contre vous, ils sont fâchés contre moi, ils sont fâchés contre Kémy, contre Franklin Nyamsi, contre Egunchi, contre tous ceux qui se battent, toutes les radios africaines, les radios mondiales et les individus qui offrent un point de vue alternatif proche de la vérité ou qui est la vérité. Ce sera une guerre sans merci, mais c'est la coalition des efforts, le fait qu'on est en face d'un système, et pour combattre un système et pour abattre un système, il faut aussi se constituer un système. Il y a peut-être là quelque chose à mettre en place. Pour l'instant, vous savez, moi, on me reproche par exemple d'être régulièrement ici à Moscou, mais je dis aux gens, mais invitez-moi, vous avez fait Montpellier, vous ne m'avez pas invité. Vous m'auriez invité à Montpellier, c'est aller dire à Macron en direct ce que je dis d'habitude sur mes vidéos.
Sauf que la France vous a interdit de séjour.
On ne m'a pas seulement invité, on m'a interdit d'entrée et de séjour. Alors, vous ne pouvez pas... On va là où les gens nous invitent. On va là où les gens nous offrent une tribune pour dire ce qu'on veut. Pas pour dire ce qu'ils veulent entendre. Nous, quand on arrive quelque part, on dit ce qu'on a envie de dire. Si c'est l'Asie qui nous invite, l'Afrique du Sud, si c'est l'Allemagne, si c'est la France. Moi, j'ai été... J'aime bien quand on me présente comme un agent russe parce que je viens à Moscou, mais on m'a invité en 2017 à l'Institut des Relations Internationales de Paris. J'ai fait une conférence là-bas. Ils n'en parlent jamais, hein. On ne dit pas que je suis un agent français parce que je suis allée parler à l'IFRI, l'Institut français des Relations Internationales. Bon, c'est vrai que quand je leur ai parlé là-bas, il y a beaucoup d'ambassadeurs dans la salle qui n'étaient pas contents. Ils ont dit... Oh, Elle ne peut pas dire ça. Mais je l'ai dit. Mais on va partout. Alors, il ne faut pas vous étonner si vous, vous censurez les gens, vous ne voulez aucun débat, vous ne voulez aucune discussion ouverte, vous interdisez aux gens d'entrer sur votre territoire, vous enlevez la nationalité française à des gens qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas d'accord avec la politique de la France en Afrique, pas avec leur pays, mais avec la politique de la France en Afrique, et que ces personnes se retrouvent en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, en Russie, je sais pas moi, n'importe où. Il faut pas vous étonner, ça fait pas de nous des agents de ces pays-là, ça fait des gens qui prennent les tribunes qui s'offrent à nous pour porter un combat qui est pour nous essentiel.
Merci beaucoup Nathalie Yambe pour vos
C'est
réponses.
Moi. Merci beaucoup.
C'était Nathalie Yambe, militante panafricaniste suisse-camerounaise pour Spoutnik Afrique. Elle nous a partagé ses impressions et ses analyses à l'issue du Forum de la multipolarité et du congrès du mouvement des russophiles qui se sont tenus à Moscou. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant. La CEDEAO a annoncé le 25 février dernier qu'elle levait ses sanctions économiques contre le Niger et la Guinée et certaines sanctions contre le Mali. Cette décision a été prise à l'issue du sommet extraordinaire du groupe à Abuja. Une décision qui peut surprendre. Le 24 février, Omar Aliou Touré, le président de la commission de la CEDEAO, avait annoncé que son organisation lèverait partiellement les sanctions prises contre le Niger suite à la prise du pouvoir par des militaires en juillet 2023 dans ce pays. À cette époque, en plus de restrictions économiques, la CEDEAO avait laissé planer le spectre d'une intervention militaire avant de finalement renoncer à son projet funeste qui aurait été lourd de conséquences pour la région. Plus récemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé dans un communiqué conjoint qu'ils quittaient la CEDEAO. Nous en avions parlé dans une précédente émission. Au micro de Spoutnik Afrique, Idrissa Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, a réagi à cette annonce de la CEDEAO. Monsieur Ouedraogo, la CEDEAO a levé ses sanctions contre le Niger, la Guinée et partiellement contre le Mali. Quelle est votre analyse de cette décision?
En vérité, la levée des sanctions en fait s'imposait au chef d'État de la CEDEAO. Parce que d'abord, qu'est-ce qui les a poussés à prendre ces sanctions qui vont quand même au-delà des limites acceptables? Moi, je trouve principalement trois raisons. La première raison, c'est eux-mêmes. Ils veulent se protéger contre d'éventuels coups d'État. La deuxième raison, c'est pour rendre service à leur maître, la France et le président Macron. Et la troisième raison, c'est pour faire souffrir les peuples respectifs des États de l'AES, de sorte à ce qu'ils se révoltent et que le chaos oblige les chefs d'État de ces trois pays-là à quitter le pouvoir. Voilà pour moi, en tout cas, les raisons qui ont prévalu à la prise de ces sanctions inhumaines. Mais malheureusement, il s'est avéré que, au lieu que ces sanctions soient des moyens pour faire reculer les chefs d'État des trois pays de l'AES, ces sanctions ont plutôt galvanisé davantage ces derniers à défendre bec et ongle leur intégrité, leur souveraineté. Mieux, les peuples, ceux-là qu'on voulait manipuler de sorte à ce qu'ils se soulèvent, se sont soudés davantage, se sont mis autour de leurs leaders pour défendre la souveraineté de ces peuples-là.
Pour rappel, la CEDEAO a non seulement sanctionné le Niger, mais aussi fait peser la menace d'une intervention militaire dans ce pays. Comment analysez-vous ce changement radical de posture de la CEDEAO vis-à-vis de Niamey?
À mon avis, ce changement de posture est imposé par, premièrement, le fait que les sanctions ont produit un effet contraire. À la manière de l'adage qui dit que les chiens aboient mais la caravane passe. Ces décisions inappropriées de la CEDEAO ont été l'élément déclencheur de la création de l'AES et par la suite de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Donc c'est pour vous dire que ces sanctions n'ont pas fait reculer quelqu'un. En plus, il n'y a jamais eu d'unanimité au sein même des chefs d'État autour de ces sanctions-là contre le Niger. Dès les premiers moments, certains chefs d'État sont restés en marge des décisions. Et par la suite, d'autres ont ravisé en cours de chemin. Il y a par exemple le cas du Bénin. Les populations également ont donné de la voix parce qu'elles n'ont pas accepté de laisser passer ces sanctions-là qui sont d'une extrême gravité pour le peuple du Niger. Mieux, les notabilités dont le poids en Afrique est d'une extrême prépondérance se sont fait entendre notamment à travers les imams du Nigeria. Même au sein de l'IA, cette dernière s'est inquiétée de la gravité des sanctions prises par la CEDEAO. Et il y a eu tout dernièrement la sortie d'un des pères fondateurs de la CEDEAO, le général Yakubu, qui a plaidé dans une sagesse sans précédent à ce que les chefs d'État de la CEDEAO puissent revenir sur leurs décisions et en même temps qui a demandé à ce que les chefs d'État de l'AES puissent rejoindre l'instance communautaire. Bon, il faut dire que tous ces éléments-là ont contribué à obliger ces chefs d'État-là à aller voir leur position. D'autant plus que avec la sortie des États de l'AES, la CEDEAO même était en passe de devenir une coquille vide. Et la CEDEAO, avec la pression populaire, ne pouvait pas continuer de défendre les positions de certaines puissances coloniales.
Ces mesures annoncées interviennent dans un contexte de sortie de la CEDEAO des trois membres de l'Alliance des États du Sahel. Et à votre avis, peuvent-elles changer la décision des pays de la charte du Liptako-Gourma?
Non, la levée des sanctions ne constitue pas une raison suffisante qui peut amener les États de l'AES à réintégrer la CEDEAO. Ce qui est reproché à la CEDEAO est plus profond que cela. C'est parce que, au lieu d'être une CEDEAO des peuples, la CEDEAO s'est simplement transformée en outil pour la défense des intérêts des chefs d'État. Et je crois que, il n'est peut-être pas exclu que les États de l'AES réintègrent la CEDEAO, parce que dans tous les cas, les relations entre les États sont fondées beaucoup plus sur des intérêts, mais il appartient à la CEDEAO de faire sa mue, et une réelle mue, et de sorte à pouvoir prouver à tout point de vue la nécessité pour ces États-là de rester dans l'espace communautaire.
Les pays de l'AES ont récemment réaffirmé l'objectif de créer une confédération des trois États membres. Le chef de l'État du Niger, le général Abdourahman Tiani, avait évoqué aussi la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Peut-on dire que les récentes déclarations de la CEDEAO sont liées au fait qu'un projet d'intégration alternatif a émergé qui peut s'avérer attrayant pour d'autres pays de la région?
Bien sûr, je disais plus haut que une des raisons qui a amené la CEDEAO à courir et à alléger les sanctions contre les États de l'AES, c'est aussi la création de l'Alliance et aussi le retrait de la CEDEAO. Parce que cette alliance des États d'Israël, et quand vous les regardez de très près, elle a tous les atouts pour concurrencer sérieusement avec la CEDEAO qui déjà a perdu toute sa réputation. Voilà, donc l'AIS ayant le vent en poupe et devant en tout cas être construite en se basant sur l'expérience de l'échec de la CEDEAO, a beaucoup plus d'avenir que la CEDEAO. Mieux, quand on regarde sur la carte qui schématise l'espace CEDEAO, quand on enlève les trois pays de la CEDEAO, on ne sait pas encore ce que cet espace communautaire ressemble. Donc, bien sûr que toutes ces raisons font courir la CEDEAO, mais dans tous les cas, nous pensons que rien ne va arrêter ces États-là dans leur décision de faire de leur espace un espace plus sérieux, un espace de développement pour leurs populations respectives.
C'était Idrissa Ouédraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la récente levée des sanctions annoncées par la CEDEAO pour trois pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Sputnik Afrique officielle qui compte maintenant plus de 25 000 abonnés. Nous vous en remercions. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.